7h31, bientôt 32 minutes. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 101. Merci d'être là. Mon nom, c'est Yann Marceau. Un peu grippé, je vous accompagne jusqu'à 10h en compagnie de l'exceptionnel Jeff Fortin et du majestueux Maxime Larouche qui est là pour couvrir les nouvelles et les sports. Qu'est-ce qu'il y a?
Ben non, mais majestueux.
Wow! Oui, ben des fois, j'essaie de vous vanter.
Ben, tu fais bien.
C'est important de le faire, de vous mettre en valeur. Ça vous fait-tu du bien? Mais oui. Toi, Jeff, t'es pas de cette génération-là, mais toi, ta génération, ça vous fait-tu du bien quand on vous met en valeur, mes petits lapins?
J'en ai besoin.
J'en ai besoin, hein? Des petites tapes dans le dos?
Oui, sinon j'avancerais pas.
Te dire à quel point t'es important pour moi dans ma vie?
Que je suis bon.
Oui.
Je suis beau.
Oui. D'ailleurs, t'es le seul avec qui je communique quand je suis à l'extérieur du bureau.
C'est vrai?
Oui.
Quand tu m'envoies tes niaiseries?
Des petits mimes.
Ouais, c'est ça.
Des trucs pour s'amuser.
Tu me dis pas des mots doux, là.
Non.
Tu m'envoies des niaiseries.
Je t'ai souhaité bonne année.
Tu m'as souhaité. Pas personnellement. Tu l'as envoyé dans notre groupe.
Tu l'as envoyé dans notre groupe. Ouais.
Ah, ben c'est ça. Ben je l'ai fait. J'ai fait un 2 en 1 et c'est bon. Je voulais sauver du temps.
C'est bravo!
C'est ça, hein? Mais moi, je l'ai fait. Je m'améliore.
Et voilà!
Vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-101.
On est entré dans l'heure de pointe à Québec, mais comme je vous disais il y a quelques minutes, là, c'est comme moins pire qu'un jeudi normal. Fait qu'on va le prendre. Là, quand même un peu d'attente pour l'accès au pont direction Nord. Capitale-Ouest, quelques petits problèmes, mais rien de catastrophique. Mi-chemin entre Seigneurial et Beau-Royal jusqu'à Beau-Royal. Il y a comme une première phase de ralentissement sur Capitale-Ouest et ça reprend un peu plus loin entre Henri Bourassa et Laurentienne. Laurentienne Sud entre le boulevard Le Bourgneuf et la capitale, quelques problèmes aussi. Robert Bourassa Sud un peu de rouge vers le boulevard Le Bourgneuf. Et les deux points les plus chauds en ce moment, c'est sur Henri IV. Là, Henri IV Sud entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest et plus haut. En fait, je devrais dire là, route de la Bravo au boulevard Jacques-Cartier rendu à cette hauteur-là. Mais quand tu roules vers Shannon, un bon ralentissement.
Est-ce que c'est la panique actuellement à la coalition Avenir Québec parce que le chef vient d'annoncer son départ, on aura une campagne, une élection pour ce qui est du nouveau chef qui sera élu. Est-ce que ce sera un homme ou une femme? On ne sait pas. Ça va être la date précise. Est-ce qu'on l'a? Ce serait au mois de janvier, février, mars, avril, dans
fin
ce coin-là?
Fin mars, de ce qu'on comprend.
Fin mars. Donc, il reste très peu de temps pour élire un nouveau chef. Puis après ça, il va rester très peu de temps pour s'en aller en élection puis à mettre ses bases bien en place. C'est une situation de crise et on a eu idée d'en jaser avec un spécialiste, un analyste en gestion de crise, un conseiller en relations publiques et gouvernementales. C'est Victor Henriquez qu'on aime bien parler sur cette antenne-ci. Salut Victor!
Bon matin les gars!
François Legault limitait ses interactions avec ses ministres dans les derniers jours parce qu'il ne voulait pas leur mentir. Pendant le mois de décembre, il est passé par la station ici où il semblait revigoré, peut-être avec ce qui se passait avec Pablo Rodriguez. Il disait « Ah ben tiens, j'ai une chance! » Puis là, ben, pendant le temps des fêtes, semblerait que monsieur a réfléchi, monsieur a consulté sa garde rapprochée. Et là, ben, le 14 janvier, c'était une bonne date pour dire « Salut, bye-bye, je quitte pour le bien des Québécois et pour le bien de la coalition Avenir Québec. »
On sous-estime à quel point c'est prenant, la vie politique, et à quel point, lorsqu'on est dans la session, on est dans un tourbillon. Puis quand je lisais les articles ce matin qui ont expliqué en détail un peu ce qui s'est passé durant le temps des fêtes, je me disais, ah, OK, je comprends maintenant aussi que la distance que le temps des fêtes lui a permis de prendre, ce temps de réflexion aussi avec ses proches, avec ses amis, avec les gens qui l'ont conseillé depuis jour 1 dans la création de la coalition Avenir Québec, ben c'est ça qui l'a amené, dans le fond, à faire le constat qu'on avait tous fait d'une certaine façon, hein. Parce qu'on avait tous vu cette espèce d'usure du pouvoir qui s'était installée, qui faisait que même lorsqu'il performait bien, on voyait que les gens étaient un peu tannés de l'entendre de toute façon.
Que tires-tu du bilan de François Legault? Peut-être qu'on prend ses deux derniers mandats à la tête de la coalition Avenir Québec parce que ses années au Parti québécois, bon, c'est peut-être un peu loin. Mais que tires-tu de son bilan? Est-ce que c'est un bilan qui est somme toute positif? Moi, je vais te donner mes cartes tout de suite. Je suis pas un as du poker. Je les cache pas mes cartes, je les montre. Je suis quelqu'un qui est rancunier. Par rapport à la pandémie, je l'ai encore sur le cœur. J'ai travaillé comme bénévole dans des CHSLD. J'ai travaillé pour les châteaux Bellevue pour tenter de me divertir pendant la pandémie parce que je trouvais le temps long puis je voulais faire ma part pour mes prochains. Puis j'ai vu à quel point il y avait une gestion de la pandémie qui était épouvantable. J'ai vu des drames familiaux qui se sont passés. Fait que c'est pour ça que je l'ai encore un peu sur le cœur. J'ai jamais réussi à apprécier M. Legault. Fait que je suis un peu... le bilan est un peu négatif à mes yeux, à moi, en raison de la pandémie, même si Jeff a raison. Il m'a dit ce matin, tu sais, la pandémie, c'était pas nécessairement de sa faute. Là, on apprenait à bâtir un avion en descendant, ce qui n'est pas la meilleure des façons de faire. De ton côté, le bilan de François Legault pour ses deux derniers mandats, ce serait quoi?
C'est très dur de faire un bilan aussi rapidement parce qu'on a besoin justement de la même chose que lui a pris, de la distance. Mais moi, je te dirais qu'il y a une chose qui est claire, c'est que pour moi, dans l'histoire, François Legault sera le premier ministre de la pandémie, justement. Bon ou mauvais, qu'on ait une bonne perception, une mauvaise perception des décisions qui ont été prises. Il y avait une forte mobilisation citoyenne à l'époque aussi. Il y a eu du très positif pendant cette période-là. Il y a une relation qui s'est créée quand même de confiance. C'est pas pour rien qu'il y a eu autant de sièges à l'élection de 2022. C'est parce que d'une certaine façon, dans cette période de crise, les Québécois cherchaient quelqu'un à qui pouvoir faire confiance. Des fois, il a trahi leur confiance, comme tu l'expliques. Mais il y a eu cette relation qui s'est créée. Je pense que c'est ça qu'on retiendra dans l'histoire. Maintenant, au niveau du bilan,
mais est-ce qu'il n'y a pas eu une fracture quand il a refusé d'avoir une commission d'enquête sur les gestes positifs comme négatifs qui ont été posés? Il n'y a pas eu une fracture là avec les Québécois?
Je pense qu'il y avait une fracture à partir du moment où est-ce qu'il y a des mesures sanitaires qui ont été mises en place, qui ont été très impopulaires, mais surtout qui ont été peut-être mal expliquées ou qui se sont avérées non justifiées après la pandémie. Hein. Alors, je pense que moi, je ne pense pas que l'histoire retienne cette fracture-là parce qu'on se souvient rarement de ce que les premiers ministres ont refusé, par exemple, une commission d'enquête. Je pense que il restera cette image-là. Maintenant, au niveau du legs concret, le legs identitaire de François Legault est extrêmement riche. On va se le dire, une loi sur la laïcité qui a été adopté, un projet de loi 96 aussi qui est venu vraiment renforcer la langue française et des positions, une politisation de l'immigration qu'on aime ou pas, et a été mise en place de façon courageuse, disons-le, par le gouvernement pour protéger son aspect identitaire. Et là où ça s'est gâté, c'est au niveau du bilan économique. Parce qu'on va se rappeler aussi que François Legault est arrivé au pouvoir avec un surplus de 8 milliards.
Exact.
Et s'en va avec un déficit de 14. Donc oui, on comprend qu'il y a la pandémie au milieu de tout ça, mais ça reste que les finances publiques sont dans un mauvais état. Et ce legs-là aussi va rester. C'est d'ailleurs le legs que va probablement mettre en valeur ses adversaires dans les prochains mois. Donc ce sera mes figues, mes raisins. Il y a aussi des projets marquants durant cette période-là. Je pense au projet Nordvol, je pense à Saclic, qui pourrait venir entacher un peu son bilan. Mais dites-vous une chose. Aujourd'hui, par exemple, si je vous parle du bilan de Philippe Couillard, tout le monde va parler du 8 milliards de surplus. Mm-hmm. Mais rappelez-vous, en 2018, le bilan de Philippe Couillard, pour les Québécois, c'était une catastrophe. Donc, les bilans aussi évoluent avec le temps et on finit par y trouver ce qu'on a trouvé de positif à tous les gouvernements parce que les gouvernements font du bon et du mauvais.
Ouais. Non, en effet, les bilans évoluent avec le temps, puis souvent la critique a tendance à s'amenuiser. Mais toi qui es un expert en gestion de crise, Victor, je pense que tout le dossier Saclic, ça va coller négativement à la CAQ et à François Legault, et ça, je vais prendre ce terme-là pour l'éternité.
Je pense que oui, il y a de ces dossiers qui collent à la peau parce qu'ils représentent une coupure entre ce qu'on nous a promis et ce qu'on nous a livré. Et Saclic, c'est devenu cette démonstration que ce gouvernement qui nous avait promis d'être un gouvernement de bons gestionnaires n'avait pas réussi à bien gérer. Et c'est là la catastrophe, c'est quand tu démontres par des dossiers comme celui-là que la promesse que tu as réalisée n'est pas réaliste. Et c'est vraiment ça qui est venu, selon moi, qui va coller au niveau de sa clique, mais qui se révèle aussi dans d'autres dossiers. Puis je pense au dossier Nordvol qui va rester. C'est qu'on nous a promis ce plus grand projet de l'histoire du Québec au niveau de l'investissement privé. Et finalement, ben, c'est un projet qui est tombé à l'eau. Alors, je ne sais pas à quel point ça va durer, mais je sais que ça va rester dans le bilan pendant un moment.
Déficit d'entretien de nos infrastructures, problématiques au niveau de la santé qui n'ont jamais été réglées, sa guerre avec les médecins où il avait envoyé un de ses meilleurs alliés, Christian Dubé, pour ensuite le tasser. Ça a été une fin catastrophique là, de tasser M. Dubé qui, lui, voulait absolument régler ce problème-là à sa façon. On l'a carrément tassé. Lionel Carman qui a quitté parce que, bon, sa famille, tout le monde est médecin.
Ouais.
Là, il a dit, moi, j'ai un peu de difficulté avec tout ce qui se passe. J'imagine que ce moment-là, ça a été un moment assez clé dans sa tête où il s'est dit, OK, là, visiblement, je suis plus en contrôle du véhicule.
En santé et l'éducation, j'essaie de me rappeler, c'est qui le dernier gouvernement qui est sorti du pouvoir et qu'on s'est dit, oh mon Dieu, ils ont fait une bonne job dans le secteur. Donc, ça reste que c'est un peu comme si au Québec, le bilan en santé et en éducation n'est jamais bon. Puis, c'est triste pour notre système même. On aura des questions très profondes à se poser là-dessus, notamment en vue d'une prochaine élection où est-ce qu'on va encore nous dire qu'on veut réduire le temps d'attente dans les urgences, qu'on veut investir plus en éducation. J'ai l'impression que ça fait 30 ans que j'entends le même discours. Je sais pas vous, les gars, mais oui. Pour moi, c'est une espèce de discours infini. Ce qui fait que dans un bilan, j'ai un petit peu plus de misère à coller une faute à François Legault dans ce dossier-là. Je pense qu'ils ont essayé. Maintenant, sur le dossier des médecins, il y a une particularité. C'est vrai que si on regarde les derniers mois, c'est un peu là où est-ce que il y a eu une espèce de cassure qui s'est faite. Une cassure qui s'est faite, pourquoi? Parce que François Legault a créé la coalition Avenir Québec en y invitant des gens de qui il était très proche, des amis, des gens avec qui il avait le goût de faire de la politique. Moi, souvent, la politique, il l'a dit, c'est un sport extrême, mais souci, c'est un sport d'équipe. En perdant Lionel Carman, on a senti qu'il était directement touché. Et en mettant de côté Christian Dubé, il a fait quelque chose qui était un peu inévitable, hein, parce que cette guerre avec les médecins, qui s'en allait dans un mur, littéralement, était un peu impossible à tenir. Je veux dire, t'as beau avoir un projet de loi qui force les médecins à certaines choses, et d'ailleurs, je pense que historiquement, on reconnaîtra qu'il aura réussi quand même à modifier, à moderniser la rémunération des médecins. Ben, à un moment donné, il faut que tu sois capable de t'entendre parce que c'est pas vrai que le système est gagnant d'avoir une guerre entre les médecins et le gouvernement éternel puis de tout rentrer dans la gorge des médecins. Alors, je pense qu'il était devenu inévitable de trouver un nouveau ton dans la conversation. France-Hélène Duranceau lui a amené ce ton-là. Et le départ de Christian Dubé en décembre, ben, je pense que c'est venu justement un peu cristalliser cette opinion qu'il avait de dire, ben, j'ai tout essayé, j'ai tout donné. J'ai fait ce que je pensais être le mieux, parce que c'est une chose qui est claire, c'est que François Legault, c'est un homme sincère. Je pense que les Québécois, avec le temps, vont lui reconnaître ça. Il avait cette sincérité envers les gens. Je l'ai entendu à plusieurs reprises dire « je me suis trompé ». C'est pas fréquent d'un premier ministre d'entendre ça, en passant, les gars. C'est quelque chose peut-être qu'on s'est habitué, mais c'est pas tout le temps arrivé. Donc, je pense que oui, ça fait partie du processus, mais je pense que ce serait très dur aujourd'hui de parler d'un bilan catastrophique en santé et en éducation, parce que finalement, c'est un peu le bilan de tous les gouvernements. Il faudra se poser la question si le problème, c'est pas le système aussi.
Quand quelqu'un me dit, à heure de grande écoute, aux nouvelles, je me suis trompé, moi, j'ai une tendance à faire un peu plus confiance à ce genre de personnes-là, parce que c'est ça, la vraie vie, c'est de faire des bons coups puis des mauvais coups. Puis en bout de ligne, ben, la personne qui s'est trompée et qui l'admet va te faire tout en son pouvoir pour changer les choses par la suite. Moi, je trouve que de s'excuser comme ça quand on a tort, c'est une des meilleures façons de réagir. Maintenant, à qui ça profite le départ de François Legault? Certainement pas à Paul Saint-Pierre Plamondon, qui avait un ennemi juré avec un bilan et il y avait tous les arguments qui étaient écrits d'avance pour les prochains débats. Là, ça scrappe un peu le narratif de Paul Saint-Pierre Plamondon. Lui, il doit pas être heureux de ça, là.
Ben, la stratégie électorale est au vidange, hein. On va se le dire. Hier, ils ont pris le livre de la stratégie en disant, bon, ben, on avait déjà à réécrire le chapitre sur le PLQ. Maintenant, on va prendre le livre au complet et on va le mettre aux poubelles. Puis le sondage d'avant-hier, il est extrêmement important. Le sondage Palos Data qui nous indique que la CAQ est rendue dernier à égalité avec Québec solidaire. Les libéraux à 24% sans avoir de chef. Quand même pas pire, ça. 10 points derrière le PQ, mais pas de chef. Après un scandale de quelques mois. Et finalement, les conservateurs à 16%. Donc, oui, pour le PQ, c'est un peu plus compliqué parce que le PQ, c'était facile pour Paul Saint-Pierre-Plamondon d'incarner le changement lorsqu'on voyait ne serait-ce que l'image de l'élection. Imaginez la photo, hein. On avait François Legault, qui est un homme dans la soixantaine, plus âgé. On avait Pablo Rodriguez, qui était à l'époque grisonnant. Et on avait Paul Saint-Pierre-Plamondon, qui a l'air d'un jeune premier à côté de ces hommes-là. Maintenant, l'image va changer. Vous prenez la photo, c'est Paul Saint-Pierre-Plamondon à côté de Rouba Gazal, de Charles Millard, qui est dans la même génération que Paul Saint-Pierre-Plamondon, et d'une nouvelle candidature à la CAQ qui aura peut-être aussi cette même génération de fin quarantaine, début cinquantaine. Alors, ça vient de changer l'image, et l'image est importante parce que ça rentre dans la tête des Québécois, cette image-là. Alors, on va rentrer maintenant dans le discours. Et ça reste qu'il y aura ce grand défi, on le sait depuis longtemps. Être bon dans les sondages, c'est une chose. Mais rendu en octobre prochain, quand les gens vont mettre leur X sur le bulletin, les gens vont se poser des questions. Par exemple, est-ce qu'on veut vraiment un référendum?
Ouais.
Par exemple, est-ce qu'on va voter sur ça maintenant ou est-ce qu'on va voter sur d'autres sujets? Par exemple, la question de l'économie. Quelle sera l'équipe économique de Paul Saint-Pierre-Plamondon? Quel sera son discours par rapport à la crainte du référendum? C'est ça que moi j'ai hâte de découvrir pour voir s'il est capable de rester au sommet. Mais la stratégie, elle vient de changer. L'image de la prochaine élection vient de changer. Et on ne sait pas de quoi elle aura l'air. Parce que ce ne sera pas la même chose si vous avez une Geneviève Guilbeault qui est élue à la chefferie de la CAQ, que vous avez, si vous avez, par exemple, un Guy Cormier, ou j'entends d'autres noms, hein, Luc Poirier, Olivier Primo, etc., etc.
Merci beaucoup, Victor.
Merci, les gars. Bonne journée.
L'excellent Salut. Victor Henriquez, à qui on a le plaisir de jaser une fois de temps en temps. Il est analyste en gestion de crise et conseiller en relations publiques et gouvernementales. On va bien sûr parler tout au long de l'émission de cette décision de François Legault de quitter la coalition Avenir Québec en tant que chef et de quitter la politique. On va s'en aller en élection pour trouver un nouveau chef à la coalition Avenir Québec. D'ailleurs, on va en reparler dans les prochaines secondes avec Denis Gravel et bien d'autres sujets aussi. Max, si tu avais trois nouvelles à m'apprendre aujourd'hui qui sont hyper importantes pour les jeunes de Québec.
Un grave accident qui est survenu sur la route Foussambeau à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier où un piéton a été happé par un véhicule en bordure de